On essaye de commencer bien à l'heure parce que le programme est chargé et pour que vous ayez, que ça ne soit pas trop stressant et stressé. Donc maintenant, nous sommes tous les sessionnistes là, enfin, ceux qui vont arriver, qui ont des choses à faire maintenant, parce qu'il y en a qui sont arrivés tant qu'hier soir, qui étaient prévus. Donc on est à peu près 105. Tous ensemble pour cette session, donc c'est quand même bien de pouvoir ainsi faire cet approfondissement, parce que comme on l'a dit déjà hier, c'est un approfondissement qui est quand même, qui demande des efforts intellectuels, comme vous avez pu vous en apercevoir. Donc on va continuer à essayer d'expliquer maintenant la deuxième partie de Veritatis, du deuxième chapitre sur la conscience et la vérité. Alors, je reprends simplement ce que nous avons dit hier sur la liberté et la loi. C'est une question fondamentale. Donc, la liberté, d'abord, il faut savoir ce que c'est que la liberté. La liberté, comme Carole Wojtyła la définissait, autopossession, automaîtrise, autodétermination. Un animal n'a pas de liberté. Autopossession, ça veut dire que ma personne arrive à tout maîtriser, hein, tout ce qui est l'affectif, le sensible, le spirituel en moi-même. Si je n'arrive pas à maîtriser tout cela, je n'ai pas atteint la liberté. Je suis dans l'esclavage de la passion, dans l'esclavage de tout cela. Ensuite, il faut qu'il y ait autodétermination. Ça veut dire qu'il faut que ce soit moi qui me détermine et que je ne sois pas déterminé par un autre. Donc je peux être déterminé par un autre, par un dictateur, je peux être déterminé par un autre, par mes instincts, par mes tendances. Donc l'animal n'a pas d'autodétermination puisqu'il n'est pas capable de se déterminer, il vit sous le coup de ses instincts, de ses... Voyez, hein? Donc, alors, ensuite, c'est la question de la liberté, de la loi. Si j'ai une loi, il faut que j'arrive à démontrer que cette loi ne me détermine pas d'une manière extrinsèque, comme si c'était un dictateur qui m'obligeait de faire ceci, mais cette loi, je la fais mienne, et c'est pour ça l'importance que Jean-Paul II a développée pour bien montrer que c'est la raison, c'est la loi de la raison. Et donc la loi, elle n'est pas imposée par un volontarisme divin arbitraire, elle est imposée par un Dieu qui est créateur et sagesse en même temps. Cette loi, elle est pleinement rationnelle. Vous comprenez l'importance? Dans l'islam, il n'y a pas de loi rationnelle. Dans l'islam, on est soumis, on obéit, un point c'est tout. Dieu a demandé, on ne cherche pas à savoir si c'est rationnel, si c'est pas rationnel. Alors que dans notre religion chrétienne, eh bien nous, c'est la religion du verbe, c'est la religion et le verbe c'est bien cher, c'est rationnel. Il faut que nous puissions donner les éléments de compréhension. Alors vous comprenez l'importance dans l'éducation, parce que les témoignages que nous avons eus hier soir sont là pour nous montrer, de faire comprendre petit à petit dans l'éducation. Il faut qu'on passe, puisque l'enfant n'est pas atteint la liberté. Donc l'enfant, il faut éduquer sa liberté, mais il faut lui donner les raisons. Car si l'enfant n'a pas compris les raisons de la loi, il va rejeter cette loi. Hein, il va faire comme Sartre, hein, tu m'as créé libre et je ne retournerai pas sous ta loi. Car je veux mon autonomie, je veux ma liberté. Voilà. Oui. Donc c'est, nous sommes en plein dans les grands problèmes sociaux actuels. C'est pas une encyclique qui est déconnectée du réel, c'est une encyclique qui est en plein dans le réel. Mais évidemment, il faut le prendre le temps d'y réfléchir. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons ce matin parler du problème conscience et vérité. C'est pas quelque chose à côté, ça se regroupe. Hein? Mais vous allez voir combien aussi cette encyclique nous fait découvrir ce lien entre maintenant conscience et vérité. L'encyclique n'a été ni étudiée ni assimilée par la majorité des chrétiens. Les consciences n'ont pas été éclairées. La conséquence est tragique. Les dictatures du relativisme n'ont pas de mal à s'imposer. Mais nous ne devons pas baisser les bras, et c'est pour ça que nous faisons cette session. C'est pour cela que Benoît XVI aussi, dans quelques semaines, va rassembler à Madrid près de 2 millions de jeunes, et que, justement, ces générations Jean-Paul II et Benoît XVI vont relever le défi avec l'aide de Jésus et de la Vierge Marie. Et qu'il faut que nous participions, nous aussi, avec détermination, à cette nouvelle évangélisation qui passe par, justement, cette transmission de la splendeur de la vérité. Donc, nous allons aborder maintenant ce problème, conscience et vérité. Comme hier, d'abord, je commence par ce que dit le catéchisme de l'Église catholique sur la conscience morale. Et on va ensuite voir le problème spécifique que Jean-Paul II a analysé dans Veritatis Splendor. Le catéchisme de l'Église catholique, donc sur la conscience, du numéro 1776 à 1802, distingue trois niveaux de conscience. Il y a la synthérèse, le discernement pratique et le jugement prudentiel. Alors je vais vous réexpliquer tout ça en essayant de vous le donner d'une façon très simple, mais c'est important de distinguer parce que sinon on ne sait pas ce que ça veut dire la conscience morale. La synthérèse, le mot dérive du mot grec synthérein qui veut dire conserver, observer. Donc la synthérèse, c'est le niveau de la conscience où sont énoncés les premiers principes de la moralité. Le second niveau, c'est celui du discernement pratique. Alors ce niveau du discernement pratique, bien évidemment, c'est le niveau de c'est la raison, c'est notre raison qui, à partir des principes, va déduire et va donner quelque chose de plus concret. Alors, je prends un exemple. La synthérèse énonce qu'il est interdit de commettre un meurtre. On peut dire que tout homme, dans le lieu intime de sa conscience que l'on appelle la synthérèse, sait qu'il ne doit pas tuer. Le discernement pratique va spécifier si l'avortement ou l'euthanasie entre ou non dans cet interdit. Comprenez, hein? Donc, puisque sinon, si la synthérèse fonctionnait d'une manière mécanique chez tout le monde saurait que l'avortement et l'euthanasie est interdit. Or, nous voyons qu'il y a des personnes qui pensent que l'avortement ou l'euthanasie sont des exceptions que l'on peut qui sont des exceptions à cette loi. Ensuite, le troisième niveau, c'est le jugement prudentiel. Ce jugement prudentiel que nous faisons chaque jour et que nous faisons plusieurs fois par jour pour savoir si l'acte concret à poser est bon ou non. Alors voyez, la complexité de la conscience, hein, il y a d'abord la synthérèse, bon, les premiers principes, le discernement pratique, donc par exemple, l'avortement, l'euthanasie sont interdits par le commandement « tu ne tueras pas ». Et le jugement prudentiel, c'est l'acte que je vais pratiquer maintenant. Eh bien, je vais décider de faire cet acte ou non parce que ma conscience me dit « tu dois ou tu ne dois pas ». Ces trois niveaux révèlent toute cette complexité. La conscience morale ne fonctionne pas d'une manière mécanique et infaillible pour pousser à faire le bien et pour empêcher de faire le mal. L'histoire humaine révèle que, de fait, de nombreuses consciences ont été et sont déformées. Les causes de cette déformation sont le péché originel, nos péchés personnels, les tentations des démons, les structures de péché, les cultures de la mort, les dictatures du relativisme, les diverses idéologies. Jean-Paul II, dans l'encyclique Evangelium Vitae, avait dit « Il n'est pas moins grave ou inquiétant que la conscience elle-même, comme obscurcie par d'aussi profonds conditionnements, ait toujours plus de difficultés à percevoir la distinction entre le bien et le mal sur les points qui concernent la valeur fondamentale de la vie humaine. » Donc, pour Jean-Paul II, dans l'encyclique Évangile de la vie, l'avortement, bien évidemment, est un grave péché, est un mal qui est effrayant, mais il est plus effrayant encore, dit-il, de voir qu'aujourd'hui, la conscience morale est tellement obscurcie que beaucoup ne savent plus ce qu'est le bien et ne savent plus ce qu'est le mal. Alors, entrons dans Veritatis Splendor. La conscience et la vérité dans Veritatis Splendor. Donc Jean-Paul II nous dit, le lien qui existe entre la liberté de l'homme et la loi de Dieu se noue dans le cœur de la personne, c'est-à-dire dans sa conscience morale. Tout homme peut comprendre ce lien entre liberté et vérité, une voix intérieure en est témoin. Voilà, donc on fait le lien entre les deux parties de du deuxième chapitre. Le lien entre la liberté et la loi se noue dans la conscience morale, dans cette voix intérieure qui me dit « tu dois, voilà, tu dois faire le bien, tu dois éviter le mal ». Le pape va exposer maintenant les erreurs qui sont actuellement enseignées par des théologiens moralistes dans des universités catholiques. Donc le pape Jean-Paul II montre que les erreurs sur l'autonomie de la liberté ont conduit à des erreurs sur la nature et la fonction de la conscience morale. Vous voyez, les erreurs sont liées entre elles. Ceux qui ont élaboré ces théories erronées ont voulu faire découvrir que dans le passé, le rôle de la conscience aurait été réduit à quelque chose de très passif, appliquer les normes générales objectives au cas particulier. Mais pour ces théologiens moralistes, cela ne serait pas compatible avec la dignité de la personne, avec son autonomie, avec sa liberté. La psychologie de chacun, pour ces théoriciens de l'autonomie, serait beaucoup plus complexe. Des normes morales ne pourraient pas et ne devraient pas se substituer à la liberté de la personne. Elles ne pourraient que donner une orientation générale et il appartiendrait à la conscience personnelle, exaltée au plus haut point, de décider et non pas de juger. Voilà, le problème de fond aujourd'hui sur l'incompréhension de la conscience morale dans cette crise de la théologie morale, c'est qu'on ne dit plus « la conscience est là pour juger », on dit « elle est là pour décider ». Donc, la conscience est créative pour ces théoriciens de la théologie de cette nouvelle théologie morale. La conscience recevrait des missions personnelles de Dieu, mais elle déciderait librement de la modalité de ses missions. L'homme atteindrait la maturité, alors c'est les erreurs, hein, c'est pas le... lorsqu'il prendrait ses décisions d'une manière totalement autonome. Comprenons en profondeur les graves conséquences auxquelles conduisent ces théories morales en contradiction avec la tradition et le magistère. Ces théories n'ont pas été inventées par Jean-Paul II, elles étaient et elles sont encore enseignées dans des universités catholiques. Il était urgent que le magistère réagisse. Alors, pour vous donner un exemple. Donc, si ma conscience est créative, ça veut dire que ma conscience ne me dit pas « tu dois ou tu ne dois pas », c'est, on va dire aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de juger. Bon, cette personne-là, elle est obligée d'avorter, elle ne peut pas faire autrement, donc on dira « c'est ma conscience ». Voilà. Moi, ma conscience me dit que c'est pas mal pour moi, donc je n'ai pas quelqu'un d'autre de l'extérieur qui doit me dire c'est mal ou c'est pas mal. Vous voyez ? Alors que là, il y a un acte qui est intrinsèquement mauvais. On reverra dans la journée qu'il y a des actes intrinsèquement mauvais que la conscience n'a jamais le droit de choisir comme étant bien pour la personne. Vous voyez ? Donc, nous sommes là aussi au cœur d'une dérive très grave au niveau de la morale. Le magistère, pour les tenants de ces théories morales, susciterait d'inutiles conflits de conscience qui empêcheraient le processus de maturation de la personne. Et c'est pour cela que le magistère est attaqué. Quand le magistère nous donne humanité, on dit mais de quel droit le pape va s'engager et va parler sur la morale conjugale, et il crée d'inutiles conflits de conscience pour les époux. Quand le magistère va parler au niveau de l'avortement, on va dire la même chose. Et quand le magistère dit quelque chose au niveau de la loi de la bioéthique, le grand maître du Grand Orient dit l'Église doit rester chez elle et l'État est chez lui. Ben non, l'Église ne doit pas rester chez elle, l'Église se doit de toujours donner cette lumière à l'humanité. Pour justifier l'autonomie de la conscience, des théologiens moralistes ont encore proposé un double statut de la vérité morale. Il y aurait les vérités objectives du niveau doctrinal et abstrait, il y aurait les vérités existentielles subjectives de la personne en situation. Jean-Paul II voyait le grave danger de ce double statut et il va y répondre. Alors ça aussi, c'est théorique, c'est un peu difficile à comprendre, mais passons dans les faits. On vous dira, ben voilà, Jean-Paul II, Paul VI a donné la loi humanévité. Alors on vous dira, ça c'est bien, c'est la théorie, mais c'est ensuite à la conscience de chacun de décider. Donc ces théories, c'est de l'auto-justification. Et ces théories nous détruisent complètement la norme morale. Voilà, c'est ce qui se passe en France depuis 1968 au niveau de l'humanité. Donc, on vous dira, la loi, c'est pour une élite, et puis chacun de vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est votre conscience morale. Oui. Et bien ça, c'est une grave erreur et une grave déviation. Grave déviation. Alors, voici la réponse de Jean-Paul II. Elle se fonde sur l'écriture, sur la tradition, sur la phénoménologie et sur l'expérience. Alors d'abord l'écriture sainte, ce sera très simple, en une phrase. Jean-Paul II s'appuie sur saint Paul, Romains 2, 14, 15, qui dit clairement que la conscience morale est un témoin pour l'homme de sa fidélité ou de son infidélité à la loi. Bon, donc c'est clair, l'écriture nous enseigne l'existence de cette conscience. Deuxième point, la tradition morale de l'Église est claire. La conscience prescrit une obligation non par elle-même, mais parce qu'elle est la voie de Dieu. La conscience est le lieu où se réalise un dialogue avec Dieu qui commande avec force et douceur de faire le bien et d'éviter le mal. La conscience juge les actes de l'homme, approbation ou désapprobation. Alors là aussi, il est important de rattacher ce que Jean-Paul II dit là avec ce que nous avons dit précédemment dans le catéchisme de l'Église catholique. Cette voie de Dieu, elle passe par un prisme, elle ne se fait pas entendre directement, elle se fait entendre au plus profond de notre cœur, mais seulement il y a tout le reste de notre éducation qui peut juger, qui peut intervenir dans ce discernement des principes. Donc dans la Sainte Thérèse, on peut dire que normalement on entend la voix de Dieu, mais ensuite cette voix de Dieu, elle va être déformée, elle va être déviée, et dans la déduction des premiers principes, je peux me tromper à cause des erreurs que j'ai pu recevoir dans ma religion, de tout ce qui vient de la culture, de l'éducation, vous comprenez ? C'est pas simple tout cela. Mais il y a quand même, au plus profond de nous-mêmes, cette voix qui me dit tu dois faire le bien, tu dois éviter le mal. Et il y a au fond de moi-même cette voix qui me juge après. Rappelez-vous Victor Hugo, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Hein? Donc Victor Hugo fait parler Caïn, hein, qui vient de tuer son fils Abel et son frère Abel, et donc qui essaye d'étouffer cette voix de la conscience, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors c'est là l'analyse phénoménologique de la conscience morale, dit Jean-Paul II. Cette analyse confirme l'écriture, confirme la tradition. Il ne peut pas y avoir deux niveaux de vérité morale. Le niveau du jugement pratique ne peut pas être en contradiction avec les vérités objectives, ni supprimer l'universalité de la loi et son obligation. Mais il les reconnaît en réalisant l'application de la loi objective à un cas particulier. Personne ne peut en appeler à sa conscience pour justifier l'avortement, le meurtre, la contraception, le vol, le mensonge et l'adultère. Pour fonder la non-contradiction entre le jugement pratique subjectif et les vérités objectives, Jean-Paul II rappelait que dans le jugement pratique de la conscience se révèle le lien entre la liberté et la vérité. Et chacun fait l'expérience de ce lien, particulièrement de cette voix intérieure qui commande de ne pas faire le mal et de faire le bien. Qui peut dire n'avoir jamais fait l'expérience du remords ou du regret après un acte mauvais? Le syndrome post-avortement est une réalité bien douloureuse. Et là aussi, on n'en parle pas assez. Parce que c'est facile. Hein, tout, malheureusement, tous ceux qui ont été blessés par cela peuvent en témoigner. On vous dira, mais non, l'avortement, c'est rien du tout, etc. Maintenant, tout se fait très très bien, etc. Et puis ensuite, on vous laisse tomber. Et qui va vous redresser? Qui va vous redonner l'espoir, l'espérance? Qui, sinon Dieu? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner son pardon. Voilà. Et donc, pour être libéré, eh bien, il faut faire l'expérience libératrice du pardon de Dieu. Et cette expérience révèle ce lien entre liberté et vérité. L'homme est fait pour Dieu. Son cœur ne connaît le repos que lorsqu'il a reçu la paix de Dieu en sa conscience profonde, lorsque sa liberté est dans la vérité. Jean-Paul II a affirmé avec autorité que le rôle de la conscience n'est donc pas de créer des décisions arbitraires en contradiction avec la loi divine participée dans la raison humaine, mais de porter des jugements qui reflètent la vérité sur le bien et qui sont en totale harmonie avec la loi divine objective. Alors, là aussi, en tant que prêtre, je peux donner cette expérience. Certains des fois, mais pourquoi Jésus a-t-il institué le sacrement de pénitence? Certains diront, je peux même me pardonner, je peux demander pardon à Dieu directement devant la croix. Eh bien, ce pardon, bien sûr, on peut le demander à Dieu. Mais si Jésus a institué le sacrement de pénitence, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a besoin d'entendre le prêtre nous dire de la part de Dieu, et moi, je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est cela qui libère. Parce qu'on a besoin d'être sûr d'avoir été pardonné. Et c'est ça, et c'est là le problème de ces grandes dépressions, de ce syndrome post-avortement. Parce que on sait qu'on a fait mal et on ne peut plus récupérer. Eh bien, on peut dire si. Avec Dieu, tout est récupérable. Parce que Dieu est miséricorde. Et Dieu est capable de nous donner. Et Dieu nous rétablit de notre dignité. Voilà. Eh bien, ça, c'est l'expérience qui nous montre que nous avons tous une conscience morale. Quel que soit, je dirais, le niveau dans lequel nous sommes tombés, quelle que soit la déformation de notre propre conscience, il y a toujours au fond de nous quelqu'un qui nous appelle, et ce quelqu'un c'est Dieu, puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jean-Paul II a conclu par cette considération sur la vraie maturité de l'homme. Cette maturité n'est pas atteinte par la libération de sa conscience par rapport à la vérité objective. Nous le voyons bien aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'adolescents. Nous sommes dans un monde où on ne prend plus de responsabilité. Faire n'importe quoi, n'importe comment, c'est pas un monde de maturité. Au contraire, la vraie maturité de l'homme, elle passe par une pressante recherche de la vérité. J'ajouterai cette considération personnelle. Ceux qui ont mis au point les dangereuses théories morales condamnées par Jean-Paul II voulaient préserver le caractère sacré et autonome de la conscience et de la liberté. Mais la conscience morale ne crée pas lorsqu'elle désobéit à la loi de Dieu, elle détruit au contraire ceux qui ont élaboré et qui élaborent des idéologies libérées de la loi de Dieu, ont construit des cultures de la mort qui détruisent. Ceux qui, au contraire, obéissent à la loi de Dieu, à la suite des saints, sont les promoteurs de la culture de la vie et de la civilisation de l'amour. Comprenons donc plus en profondeur le rôle de la conscience morale. Elle n'empêche pas la mission personnelle de chacun. Elle n'éteint pas le dynamisme, l'enthousiasme, la créativité, mais elle les permet tout au contraire. En effet, en commandant fermement de ne pas faire le mal, elle préserve la liberté personnelle et la maintient dans la grâce de Dieu et dans la liberté spirituelle. En demandant de faire le bien, la conscience morale libère des énergies d'amour exceptionnelles qui ne sont mesurées par aucune limite et qui ont permis à Saint Vincent de Paul, à Mère Teresa, à Padre Pio et à tant d'autres saints de faire œuvre d'authentique créativité pour la gloire de Dieu et le service de tant de frères blessés ou découragés. Admirons ce qu'ont réalisé les saints. Ils ont toujours eu le souci d'obéir à Dieu. Quelle créativité pour la mission de l'Église et pour le service de l'humanité. Ne nous laissons pas enfin influencer par les critiques contre le magistère. Il ne crée pas d'inutiles conflits de conscience, mais il est un nouveau don de Dieu pour permettre à la conscience de demeurer dans la vérité. Voilà. Alors maintenant,